en train de se construire. Donc, la répercussion, en tout cas, d'une insuffisance d'alimentation, que ce soit en quantité ou en qualité, va se ressentir très rapidement sur ces enfants-là. L'autre cause qu'il ne faut pas négliger, qui est très importante, c'est également la maladie, en sachant que cette zone du Sud-Niger est une zone, en tout cas, où le paludisme sévit. Et on a connu cette année, en tout cas, une recrudescence de paludisme qu'on ne connaissait pas les années passées. Donc, en tout cas, on a recensé un nombre important de cas de paludisme, et particulièrement chez les enfants. Et ce nombre important de cas de paludisme fait que, en tout cas, l'enfant qui est malade n'est pas dans sa bonne forme. Et vous savez très bien qu'un enfant, quand il n'est pas dans sa bonne forme, une de ses premières réactions, c'est de ne pas s'alimenter. Et l'autre situation de paludisme aussi, c'est que très souvent, ça entraîne des manifestations digestives chez les enfants. Pour faire plus simple, ça peut entraîner des diarrhées et des vomissements. Et comme vous savez, toutes ces situations font que, en tout cas, l'enfant risque de développer une dénutrition. Donc cet état de paludisme aussi a des conséquences sur le statut nutritionnel de ces jeunes enfants qui sont très fragiles et qui ne sont pas assez résistants. Et donc, cet état de paludisme peut expliquer la situation de malnutrition qu'on est en train de connaître dans le sud du Niger et le nord Nigeria. Il y a un autre phénomène important, qui est beaucoup plus important dans le nord Nigeria, c'est le phénomène de l'insécurité.
Comment l'insécurité qui règne dans certaines zones, au Nigeria notamment, contribue-t-elle à mettre en danger la sécurité nutritionnelle et alimentaire des enfants?
Le phénomène de l'insécurité, du fait du grand banditisme en tout cas qui se développe dans ces zones, lequel grand banditisme a contraint malheureusement les populations de Katsina de se mouvoir, de ne pas être en tout cas dans leur lieu classique où ils exercent leur activité. On estime à peu près à 120 000 déplacés internes dans Katsina. Et on estime à peu près à 77 000 réfugiés nigériens qui sont dans la région des Maradi. Donc quand vous regardez toute cette population, en tout cas c'est une population qui devient vulnérable, vulnérable en ce sens qu'elle n'est pas dans son milieu naturel où elle exerce ses activités qui leur permettent d'avoir des revenus et de subvenir aux besoins de leur famille. Voilà un peu, en tout cas, quelques causes sur lesquelles nous on regarde avec beaucoup d'attention et qui justifient la situation nutritionnelle très tendue au sud du Niger et au nord Nigeria.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
En quel sens le coronavirus contribue aussi à cette malnutrition qu'on observe dans la région nigérienne de Maradi et dans le nord-ouest nigérian?
Comme vous savez, la lutte contre le coronavirus a entraîné des fermetures de frontières. Or, la frontière Niger-Nigéria, dans ces zones, notamment dans la région de Maradi, région de Zender et Katsina, est une frontière où il y a beaucoup d'échanges entre les deux populations. Les gens vivent de ces échanges. Les gens vivent du petit commerce entre le Niger et le Nigeria, ce qui fait que les restrictions qu'il y a eu, elles peuvent faire en sorte que, en tout cas, certaines catégories de personnes ne seront pas en mesure de s'adapter à ces situations-là parce que leurs activités au quotidien vont être impactées. Et on sait que quand l'activité génératrice de revenus que la personne fait est impactée, la personne va les sentir dans sa poche. Et quand la personne, je vais dire, le chef de famille les sent dans sa poche, quand je dis chef de famille, que ce soit homme ou femme, hein, quand tu sens les répercussions de quelque chose dans ta poche, ça va malheureusement se répercuter sur l'assiette de la famille. Ce qu'on a l'habitude d'acheter et d'amener à la maison pour que la famille mange à sa faim va être impacté, et que ce soit dans la qualité ou dans la quantité, parce que là, on va se retrouver malheureusement dans une situation où il faut faire des choix parce qu'il faut juste calmer la faim. On n'est plus dans la qualité des aliments qu'on amène à la famille. Et très malheureusement, dans ce genre de choix qui s'opèrent, on ne tient pas compte des besoins besoins particuliers des enfants de moins de 5 ans, on se permet d'acheter ce qu'on peut acheter avec le peu d'argent qu'on a ou avec le peu d'argent qu'on a gagné. Et ça, évidemment, ça va se traduire à moyen terme sur l'état nutritionnel des enfants ou bien la santé des enfants qui elle-même a une conséquence sur l'état nutritionnel par la suite des enfants. Donc on rentre dans un cercle vicieux, en tout cas, qui génère malheureusement déjà des situations à grande échelle.
Pourquoi les enfants de moins de 5 ans sont-ils les plus touchés par cette insécurité alimentaire et nutritionnelle?
Comme j'expliquais, d'une part, les enfants de moins de 5 ans sont des enfants assez fragiles. Quand on dit assez fragiles, c'est en termes de résistance face aux maladies. Donc, avec la situation de paludisme que j'évoquais tantôt, tout le monde devrait avoir accès à la santé, mais particulièrement les enfants de moins de 5 ans et devraient avoir accès et très rapidement aux soins de santé qui leur permettent de rétablir leur santé. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ces enfants sont exposés, en tout cas, à développer d'autres maladies après les paludismes. Je veux dire par là les maladies qu'ils développent très rapidement.
Quelles peuvent être ces maladies que l'enfant pourrait développer?
C'est la malnutrition, parce que l'enfant n'est pas bien soigné, l'enfant n'arrive pas à manger, l'enfant fait de la diarrhée, l'enfant fait des vomissements, et évidemment, ça va avoir des conséquences sur son état de nutrition, sur son état nutritionnel. De l'autre côté aussi, pourquoi ça va avoir un impact sur les enfants de moins de 5 ans? C'est que l'enfant de moins de 5 ans, plus que l'adulte, a besoin d'une alimentation assez spécifique. C'est un enfant qui est en construction, dont l'organisme a besoin de protéines. Ce n'est pas comme l'adulte. L'adulte, lui, il est déjà construit. Il a besoin de maintenir ce qu'il a construit, ce qui n'est pas le cas de l'enfant. Donc, si vous donnez une alimentation uniquement énergétique à un adulte, il va beaucoup plus la supporter que quand vous la donnez à un enfant qui n'a pas besoin que de l'énergie, il a besoin de protéines pour se construire. En cela, en tout cas, pour les cas particuliers des enfants de moins de 5 ans, quand il y a un problème de quantité ou de qualité de l'alimentation qui est disponible dans la famille, ça va se traduire très directement sur les enfants parce que lui, son organisme ne peut pas gérer cette situation. Voilà un peu pourquoi ça se ressent beaucoup plus chez les enfants de moins de 5 ans que chez les adultes.
Vous, Médecins sans frontières, regardez cette situation avec attention. Quelle pourrait être la conséquence si on perdait de vue cette insécurité alimentaire?
Si on perdait de vue, on sait que classiquement, la malnutrition et le paludisme sont associés, en tout cas, déjà à la morbidité des enfants. Donc c'est ça qui rend les enfants malades. Mais au-delà de cette situation de rendre les enfants malades, la chose la plus pire ou la plus grave à laquelle on ne voulait pas arriver, c'est que la malnutrition, elle est associée dans 40% des décès des enfants. Donc, c'est potentiellement, en tout cas, une des maladies qui a des conséquences néfastes sur les enfants. Donc, on voulait éviter, par cette alerte, que les enfants ne décèdent pas du fait de cette malnutrition.
Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour endiguer cette crise de malnutrition?
Donc, il y a plusieurs moyens qu'on compte utiliser, en tout cas, pour faire face à cette situation que nous sommes en train d'envisager. D'abord, il y a des moyens internes en Médecins sans frontières qui consistent à augmenter nos capacités opérationnelles. Aujourd'hui, déjà, nous travaillons dans le district de Madaropa et nous allons monter en puissance au niveau de ce district de Madaropa en appuyant d'autres structures de santé qui relèvent du ministère de la Santé nigérien qui ne sont pas pour l'instant appuyées par Médecins sans frontières. Donc, on va aller renforcer leur capacité, donc augmenter la possibilité pour les enfants de se faire soigner. En plus du district de Madaropa, nous allons travailler en appui avec le ministère de la Santé dans d'autres districts sanitaires, notamment le district sanitaire de Guidanrougi et le district sanitaire de Agui, pour d'une part renforcer les capacités des hôpitaux du district sanitaire de Guidanrougi, d'autre part renforcer les capacités des centres de santé intégrés, qui sont des structures périphériques qui accueillent les enfants parce que c'est très important de recevoir les enfants pendant qu'ils ne sont pas encore très gravement malnutris, de les traiter en ambulatoire, autrement de leur permettre de prendre les soins le matin et de rentrer chez eux l'après-midi et le soir. Cela permet en tout cas de faire en sorte de diminuer considérablement le nombre d'enfants malnutris graves, c'est-à-dire le nombre d'enfants malnutris à hospitaliser, et de permettre aux structures hospitalières de pouvoir accueillir ceux qui sont malheureusement devenus graves pour les soigner. J'ajouterai qu'en interne MSF, aussi bien qu'on développe des capacités sur le côté nigérien, nos équipes, en tout cas qui sont au Nigeria, vont également développer des structures de prise en charge dans l'état de Katsina, pour permettre à ce que les enfants du Nigeria qui arrivent au Niger pour demander des soins puissent rester à Katsina et se faire soigner à Katsina. Donc MSF développe des programmes à Katsina pour la prise en charge de la malnutrition. Malheureusement, malgré cette augmentation des volumes au Niger et au Nigeria, Médecins Sans Frontières craint que cela ne va pas suffire à lui seul, en tout cas, à résoudre le problème. Parce que, en tout cas, de la manière dont on est en train d'envisager les choses, l'ampleur risque d'être vraiment importante.
Que comptez-vous faire alors dans ce cas?
Pour ce faire, nous sommes en train aussi d'attirer l'attention des uns et des autres, notamment des gouvernements concernés, mais également des bailleurs de fonds et des autres acteurs humanitaires, pour que chacun se mobilise et pour que tous ensemble, en tout cas, on contribue à faire en sorte que la situation soit prise en main, comme j'ai dit, pour éviter que les enfants puissent en pâtir.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Vous évoquez l'implication des uns et des autres, notamment les gouvernements. Quelle doit être l'implication des autorités concernées, notamment celles du Nigeria et du Niger?
Non, l'implication du gouvernement concerné, déjà que, en tout cas, sur la partie nigérienne, il y a eu un très bon développement des capacités qui s'est fait, mais qu'à cela ne tienne, les gens ne doivent pas dormir sur leur laurier. C'est juste de dire qu'à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, donc certes, on a déjà fait des efforts, on a besoin encore de faire des efforts davantage en tenant compte de la situation qui est en place. C'est vraiment ce qu'on attend. Sinon, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites côté nigérien. C'est juste de dire, OK, la situation est quand même un peu particulière cette année. Donc, il va falloir encore faire un effort davantage.
Qu'en est-il du côté nigérian? Y a-t-il aussi des efforts qui sont en train d'être faits, comme du côté du Niger?
Jusqu'ici, le côté nigérien n'a pas connu, en tout cas, un développement des activités de prise en charge nutritionnelle comme du côté du Niger. En tout cas, notre appel envers les autorités du Nigeria, c'est qu'ils puissent sensibiliser les ministères de la Santé pour qu'ils fassent sienne les inquiétudes du MSF et qu'ils participent à cette réponse. Ce qu'on attend des autorités du Nigeria, c'est de collaborer étroitement avec Médecins Sans Frontières en sensibilisant les structures du ministère de la Santé afin qu'elles mettent à disposition une réponse adéquate et que les enfants puissent accéder aux soins pour la prise en charge de la malnutrition.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Nous avons une question qui vient d'un auditeur depuis Niamey au Niger, Lawali Tanimoun, Il dit ceci, vu qu'à l'épreuve des faits, les décisions politiques ont montré leur inefficacité, n'existe-t-il pas des initiatives locales que les populations peuvent mettre en pratique pour prévenir et même gérer elles-mêmes les crises alimentaires?
Je trouve quand même un peu trop de dire que les décisions politiques ont montré leur inefficacité parce que, bon, en tout cas, dans le contexte nigérien, quand on regarde de 2005 ou 2004, où ces problématiques de malnutrition ont été mises sur la table, il y a quand même d'importantes évolutions qu'on note au Niger. Parce qu'aujourd'hui, on a une appropriation conséquente de ces activités de prise en charge par le ministère de la Santé. Et cette appropriation se ressent à travers le développement dans toutes les structures de santé du ministère des capacités de prise en charge. Avant, il fallait la présence d'un partenaire pour prendre en charge la malnutrition. Aujourd'hui, l'avancée notable, c'est que la malnutrition fait partie, en tout cas, des paquets de soins qu'on offre dans les structures du ministère de la Santé publique. Et ça, c'est vraiment très important parce que, comme vous savez, les acteurs humanitaires et autres acteurs qui appuient dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition ne sont pas partout. Et plus l'État s'en approprie, plus le ministère de la Santé s'en approprie, plus on a la possibilité et que partout dans les pays, les enfants qui ont besoin de se faire prendre en charge vont se faire prendre en charge. En plus de cela, tout le monde connaît le programme des Nigériens nourrissent les Nigériens, à travers lequel les autorités ont pris l'engagement de prendre des dispositions, des mesures, de faire en sorte que la situation alimentaire et nutritionnelle du pays soit prise en compte pour que, en tout cas, dans un avenir, je crois, à l'horizon 2030, qu'il y ait moins de malnutrition qu'il n'y en avait il y a d'ici là quelques années. Donc ça, c'est vraiment très important. Je trouve que c'est une volonté politique, en tout cas, à un haut niveau qui a été manifestée par le Niger. Et moi, je suis vraiment bien placé pour dire que il y a des avancées significatives qu'on a constatées avec ce programme des Nigériens, nourrissent les Nigériens. Seulement, il faut se dire la vérité. Vous savez, les difficultés, ce n'est pas en quelques jours, en quelques semaines qu'on les règle. C'est petit à petit, on pose les jalons, on monte sur les escaliers et on avance petit à petit. L'essentiel, c'est que qu'on puisse voir des signes d'évolution. C'est ce qui encourage les uns et les autres à appuyer le gouvernement nigérien qui déjà lui-même montre une bonne volonté, en tout cas dans la prise en compte de ces problématiques-là. Je comprends bien que ça fait des années qu'on est en train de chercher des solutions à ces crises alimentaires et nutritionnelles. Mais bon, au moins, on peut se targuer du fait qu'aujourd'hui, les enfants qui ont besoin d'être pris en charge ont la possibilité de se faire prendre en charge. Cela n'empêche pas qu'il y ait des boulots d'étranglement par-ci, par-là, qu'on essaye de pouvoir régler et d'avancer.
Parmi les moyens de lutte contre l'insécurité, il y a un autre auditeur, Laska Sek, qui évoque l'agriculture. Est-ce que vous pensez que encourager l'agriculture pourrait aussi être une option pour combattre cette insécurité alimentaire?
Non, justement, peut-être j'ai pas été assez clair quand j'ai parlé du programme des Nigériens nourrissent les Nigériens. En tout cas, il a un volet développement agricole qui est dedans. Et quand on dit développement agricole, c'est faire en sorte qu'à travers l'agriculture, qu'on ait plus de disponibilité d'aliments, qu'on ait plus de disponibilité d'aliments nutritifs, parce qu'il y a ça aussi qui entre en ligne de compte. Il faut que les aliments soient nutritifs pour que les enfants de moins de 5 ans dont j'ai parlé tantôt puissent trouver ce dont ils ont besoin dans les aliments qu'ils mangent. Et en renforçant la disponibilité des aliments, ça va permettre que les prix des aliments soient accessibles, ça va pouvoir les vendre pour ceux qui vont acheter et que ceux qui vont vendre aussi soient en mesure d'avoir des revenus. Il y a aussi tout ce qui relève de l'élevage, faire en sorte qu'il y ait de la disponibilité des protéines d'origine animale accessibles pour les familles. Tout ça, là, c'est important. Quand on arrive à les faire, quand il est facile pour les ménages d'accéder aux produits de l'agriculture, ça va faciliter la disponibilité des éléments nutritifs dont les enfants de moins de 5 ans ont besoin, ce qui va contribuer à la prévention de la malnutrition chez ce groupe d'âge. Donc évidemment, l'agriculture est très très importante.
Est-ce qu'il y a un risque que la crise se propage à d'autres régions?
Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y a risque que la crise va au-delà des saisons dont je vous ai parlé, notamment les sud Niger et le nord Nigeria. Parce que globalement, quand on regarde les données de prise en charge nutritionnelle, c'est l'ensemble du pays, on a une augmentation d'à peu près 9% comparée aux données de démission de l'année 2020. Donc pour l'instant, on va dire que ça reste une situation suffisamment contrôlée sur l'ensemble des pays, sauf que c'est une situation qui est localisée et qui nous inquiète localement. Permettez-moi de me répéter. En tout cas, à moins d'un autre phénomène qui va venir s'ajouter, on garde l'espoir que la situation va rester circonscrite dans ces zones qui sont définies. Et je suis convaincu qu'avec la sonnette d'alarme qu'on a appuyée, les uns et les autres vont s'élever comme un seul homme pour faire en sorte de contrôler la situation et de faire en sorte que ça n'aille pas au-delà de ces zones-là.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Quel est votre souhait ou bien qu'est-ce que vous espérez des autorités publiques ou des bailleurs de fonds?
Mon souhait, c'est que chacun puisse faire ce qu'il peut pour que cette situation soit contrôlée. Et quand j'ai dit chacun puisse faire ce qu'il peut, je ne peux m'empêcher de l'aider pour que les bailleurs de fonds soient dans la danse. Parce que j'avais omis de vous dire, cette situation intervient dans un contexte où il y a une diminution de l'enveloppe de l'aide allouée pour la prise en charge de la malnutrition. Et cette diminution de l'enveloppe, malheureusement, entraîne la diminution de la capacité des acteurs humanitaires à répondre aux besoins des enfants en développant des programmes. La réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est la fermeture même de certains centres de prise en charge qui sont appuyés par les partenaires. Bon, quand j'ai dit fermeture, c'est trop, mais les retraits de certains partenaires humanitaires qui appuient le ministère de la Santé dans le cadre de la prise en charge des enfants malnutris. Or, ce retrait a des conséquences sur le volume d'activité qu'il faut. Donc, si j'ai un souhait, c'est vraiment de voir les volumes de l'aide augmenter en tenant compte de cette situation particulière afin de permettre aux acteurs humanitaires d'appuyer l'État dans la prise en charge de la situation dans ces zones-là. Je sais que côté gouvernement, ils font du mieux qu'ils peuvent et j'ose espérer qu'ils vont persévérer dans ce sens. Les acteurs humanitaires aussi font du mieux qu'ils peuvent, qu'ils ont des limitations pour certains qui n'ont pas la capacité d'avoir des fins propres et de développer des programmes, ce qui les rend un peu dépendants des enveloppes d'aide qui sont disponibles sur les pays. J'ose espérer qu'ils vont faire des plaidoyers ailleurs pour qu'au-delà des fonds qu'on peut avoir localement, qu'ils puissent trouver d'autres fonds qui vont leur permettre de venir mettre la main à la pâte afin qu'il y ait plus de programmes de prise en charge des enfants malnutris.
Monsieur Haruna, vous venez de répondre à notre dernière question. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci bien, merci.
C'est aussi la fin de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Cette édition était consacrée à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui menace la région nigérienne de Maradi et le nord-ouest nigérian. Notre invité, M. Haruna Soulé, chef de mission à Médecins Sans Frontières, a décrit l'ampleur de la crise, mais il a aussi évoqué les actions que son organisation met en œuvre pour contrer la dénutrition et la malnutrition qui pointent à l'horizon. Ce magazine Santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook.